à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, une série du podcast d'Entretemps, revue numérique d'histoire actuelle.
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Lilti, historien moderniste, professeur au Collège de France depuis l'année dernière sur la chaire Histoire des Lumières, 18e-21e siècle.
Avec Aurélien Péter, il revient sur la publication de sa leçon inaugurale intitulée Actualité des Lumières, une histoire plurielle.
Bonjour Antoine Lilti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui à Entretemps pour cet épisode de notre série Le Rétroviseur, cette série qui nous invite à jeter un coup d'œil en arrière sur des publications passées. Aujourd'hui, on va à la fois jeter un coup d'œil en arrière, mais aussi en garder un sur la route, puisque nous allons porter notre attention sur le moment qui entoure l'écriture et la publication de votre dernier ouvrage, qui est à la fois un aboutissement, l'aboutissement d'un parcours, et puis à l'origine de nombreuses pistes de recherche que vous déployez depuis. Cet ouvrage a été publié en juin 2023 par le Collège de France et Fayard sous le titre « Actualité des Lumières, une histoire plurielle ». C'est un livre un peu particulier puisqu'il s'agit de la transcription quasi exacte, hein, quasiment au mot près, plus les notes de bas de page de la leçon inaugurale que vous avez prononcée au Collège en décembre 2022. Alors c'est un passage obligé pour tout nouveau professeur du collège, titulaire ou invité, que cette leçon introductive promise à une publication depuis 1949, c'est inscrit comme ça sur le site du collège, hein, depuis 1949 et celle de Georges Dumézil, l'institution en compte près de 320 des leçons inaugurales et la vôtre est la 316e. Alors comment est-ce qu'on se confronte à cet exercice si particulier de l'écriture d'une leçon? Comment ça s'écrit? Est-ce que ça s'écrit facilement une leçon inaugurale?
Non, pas vraiment. Ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'effectivement, en termes de temps par page, par rapport au résultat, c'est effectivement un investissement lourd. Mais c'est surtout préparé par beaucoup de lectures. L'écriture même, elle n'est pas en réalité si longue. Il y a un moment où on s'y met et puis ça vient. Mais c'est effectivement beaucoup de... C'est un moment où on fait un bilan. Et donc, on reprend beaucoup de choses, on relit. Il y a énormément de choses qu'on a envie de dire. En fait, le temps est contraint, une heure. Le format est contraint, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des passages obligés qui sont le rapport à l'histoire de l'institution, à l'histoire de la discipline, l'éloge des anciens, des maîtres, des anciens collègues. Donc, il y a des passages obligés. Il y a le bilan à la fois du champ de recherche et de sa propre recherche. Et puis, il y a l'ouverture d'un projet de recherche. Donc, ça laisse assez peu de temps pour chaque chose. Donc, ça oblige à être à la fois large et très synthétique. Donc, c'est ça la difficulté.
Quand on écrit cette leçon et quand on la prononce, il y a quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, le cours qui commence. Vous l'aviez commencé en janvier l'année dernière, il y a un an. Est-ce que ça s'articule à la fois la préparation de la leçon et la préparation du cours ou c'est deux choses vraiment décorrélées?
Je crois que ça dépend. Ça dépend vraiment des cas. Il y en a pour qui la leçon inaugurale est une sorte de vraiment de premier cours de la première année. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'avais vraiment choisi de faire une leçon inaugurale de présentation générale de la chaire et puis ensuite de faire une première année de cours qui était d'une certaine manière légèrement décalée. Alors pas complètement, puis on y reviendra peut-être. Et d'ailleurs, la fin de la leçon ouvrait vers cette première année de cours, mais qui était un peu décalée par rapport au centre du propos. Donc en fait, ça ne s'articulait pas entièrement, ce qui d'ailleurs fait que j'avais beaucoup investi de temps dans la préparation de la leçon et quand j'ai dû me mettre au cours quelques semaines après, il m'a manqué un peu de temps.
Il a fallu recommencer. Et oui, parce que vous aviez un agenda bien chargé. Au-delà de l'écriture de la leçon et du cours, en fait, ça marque un moment, cette leçon, celui de votre entrée au Collège de France. Le matin même de la leçon, en décembre 2022, vous étiez l'invité de la matinale de France Inter. Et en écoutant cette interview, il y a une chose qui m'a marqué, c'est l'insistance avec laquelle on vous a demandé ce que Voltaire aurait dit à un complotiste, ce qu'il aurait pensé des tweets clash, ce qu'il aurait pensé d'Elon Musk. Est-ce que vous seriez devenu alors le porte-parole des Lumières?
J'espère pas, mais il y en a suffisamment d'ailleurs des porte-paroles autoproclamées des Lumières. Non, j'essaye de pas l'être. Après, c'est vrai que du coup, la position, la visibilité de la chaire au collège fait que voilà, devient une sorte d'expert autorisé sur les lumières, notamment pour les journalistes qui veulent réagir. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'évidemment, parce que vous parliez de cette interview sur France Inter, c'est qu'évidemment, c'est les quelques points peut-être les plus anecdotiques qui, évidemment, mais ça, c'est le principe même des interviews qui sont mis en avant et qui sont retenus. Mais bon, ça, il faut le savoir et il faut en jouer. La difficulté, évidemment, dans ce type d'interview, à partir du moment où l'objectif de l'interview était d'articuler une actualité historiographique, les Lumières et le fait qu'il y avait cette leçon le soir même, et une actualité politique, puisqu'en fait, il voulait me faire réagir à partir des Lumières sur une série de questions, c'est à la fois d'affronter la chose, parce que sinon, ben, on n'y va pas, on n'est pas obligé d'aller à la radio, et en même temps, de le faire en déplaçant un peu la question et l'horizon d'attente, de pas complètement, c'est toujours le problème avec les interpellations journalistiques, c'est de pas se fondre complètement dans le cadre qui est demandé.
Oui, et puis ça marque aussi votre accès à un nouveau public, parce que c'est pas le même public que celui qui lit les livres de recherche, évidemment, que celui qui écoute les cours du Collège de France et ses leçons. Est-ce que, justement, vous avez eu l'impression, depuis maintenant un an, hein, d'adapter, de transformer votre discours historien pour ce public-là ?
Non, pas vraiment. Alors vraiment, très ponctuellement, effectivement, parce que je ne passe pas non plus, je rassure les auditeurs du podcast, je ne passe pas mon temps à la radio. Je fais quelques émissions. C'est vrai qu'on est un peu plus sollicité quand on est au collège. Et donc, quand on est sollicité, je considère qu'il faut quand même un peu jouer le jeu. C'est-à-dire que si on va à la radio, c'est pour parler au public de la radio, pas pour faire un séminaire. Donc, il faut accepter ce jeu, mais ça reste pour l'instant, en tout cas, très, très marginal dans mon activité. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'avec le collège, c'est plutôt la forme d'enseignement qui s'adapte. Que moi, avant, j'étais à l'école des études en sciences sociales, vraiment un séminaire de recherche avec un public restreint, qui est un public de doctorants, d'étudiants de master, éventuellement de collègues. Et donc, public vraiment, disons, de chercheurs ou de jeunes chercheurs en devenir. Et là, c'est très différent parce que les cours au collège, on s'adresse à un public à la fois plus nombreux, mais surtout plus divers, plus hétérogène et surtout qu'on connaît assez mal. Et il y a à la fois le public de l'amphi, il y a le public qui écoute les cours à distance. Et donc là, il faut adapter, on tâtonne, hein, pour vrai dire, je tâtonne beaucoup, pour parler à ces différents publics dans le cours, mais sans que ça soit, sans modifier, je crois, enfin j'espère, en tout cas, le contenu même, l'effort de production de savoir historiographique, mais en faisant attention justement que le format permette de s'adresser en même temps à ces différents publics.
Alors le contenu justement, venons-y, c'est celui qui concerne la leçon inaugurale, hein, c'est celui de l'actualité des Lumières, c'est le titre de la leçon, qui fait écho aux préoccupations de la chaire, une chaire qui tisse une histoire des Lumières allant du 18e au 21e siècle. Cette actualité des Lumières, est-ce que c'est un constat, est-ce que c'est un programme ?
C'est les deux. Alors, c'est d'abord un constat au double sens, si vous voulez, de l'actualité des Lumières. D'une part, parce que, à la différence sans doute d'autres types d'objets historiques, les Lumières sont dans l'actualité au sens où on y fait référence dans le débat politique, dans le débat public, etc., dans l'actualité. Et une actualité au sens où il y a un potentiel d'actualisation des débats des Lumières. C'est-à-dire que beaucoup de questions qui, aujourd'hui, font partie de notre actualité intellectuelle, politique, théorique, au fond, soit se réfèrent explicitement à des enjeux ou à des débats ou à des textes des Lumières, soit, et c'est là peut-être que ça devient un programme, gagnent à être aussi relus, réinterprétés, repensés à partir du XVIIIe siècle. Donc, c'est un constat, et le constat, c'est qu'effectivement, dans notre présent, ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas forcément totalement changé. Foucault disait que les Lumières étaient notre plus actuel passé. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps au XXe siècle, cette revendication du fait que les Lumières restent dans une actualité, restent un objet de débat, restent un objet polémique, restent un objet controversé, etc. Donc, c'est un constat. Et la part de programme, c'est l'idée qu'un retour proprement historien, c'est un retour critique à partir du XVIIIe siècle, permet un peu de soit de clarifier, soit de modifier les termes de ce débat contemporain.
Puis il y a même, et vous le montrez, un présent des Lumières dans le sens où c'est au moment des Lumières que la réflexion sur le présent devient très importante.
Alors ça aussi, c'est encore Foucault, hein, ça, c'est l'idée très forte. Hein, il dit que les Lumières inventent l'actualité, notamment, lui, c'est Kant en 1784. On peut élargir, c'est-à-dire d'une réflexion sur la spécificité du présent. Alors, on peut dire un mot, puisque c'est un texte très intéressant, hein, donc dans ce texte de Foucault, « Qu'est-ce que les Lumières ?» dit c'est les Lumières, donc c'est le point de départ de ce qu'il appelle donc cet éthos de l'actualité, cet éthos moderne qui est le fait que la philosophie se met à réfléchir très précisément à qu'est-ce que c'est d'être aujourd'hui contemporain. Et alors, il y a une partie qui, à mon avis, est contestable, c'est-à-dire que Foucault le tire du côté de... très vite, vous savez, il fait un passage à Baudelaire, et en fait, il le tire du côté de ce qui lui l'intéresse, en fait, c'est-à-dire une espèce de capacité souveraine de diagnostic du présent, qui va presque... Alors, il part de Kant, mais très vite, il va aller le chercher du côté de l'art, du côté de la poésie, du côté de la littérature, donc de ce lien entre philosophie et lien, où, au fond, c'est une capacité voilà, de faire... Le philosophe, comme l'artiste, comme l'écrivain, un diagnostic du présent. Et ce qui, par rapport au XVIIIe siècle, par rapport aux Lumières, à mon avis, fait un peu l'impasse sur une dimension, sur plutôt la naissance d'une réflexion plus historicisée, plus collective sur ce que c'est que l'actualité, notamment prise dans une transformation des structures, par exemple, de l'information et des structures médiatiques de saisie du monde. Alors ça, c'est ma petite réserve. Mais à côté de ça, il faut rendre justice au fait que Foucault perçoit quelque chose très clairement, c'est que les Lumières sont un moment de réflexivité très important. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que, notamment, beaucoup les philosophes politiques, ont tendance à considérer les Lumières comme un programme théorique, programme de la modernité dont la modernité serait issue. Moi, j'ai tendance à renverser la proposition et à considérer que les Lumières sont un moment de réflexivité critique, de problématisation de la modernité. Et du coup, ça ouvre complètement, parce qu'on cherche moins dans les Lumières une espèce de cohérence doctrinale dont ensuite la modernité serait issue et donc il faudrait soit continuer à défendre, si on veut continuer à être moderne, soit attaquer et critiquer si on pense que la modernité nous a emmenés dans le mur. Mais si on pense que les Lumières, c'est plutôt un moment de réflexion critique sur les possibilités d'émancipation dont la modernité est porteuse, mais aussi sur ses limites, ses abus, ses points faibles. Et donc, ça veut dire que les Lumières deviennent à la fois un espace de controverse, de débat, mais aussi on se met à pouvoir insister sur tous les aspects qui sont très présents au XVIIIe siècle, mais qu'on finit par ne plus voir, qui sont le pessimisme critique, à l'égard justement de ces premières manifestations de la modernité, qu'elles soient économiques, politiques, commerciales, intellectuelles. Voilà. Donc c'est une réponse un peu longue, je suis désolé, mais autour de cette question d'actualité, et puisque vous me relanciez sur la question de la réflexivité, ça permet de revenir sur la façon dont je conçois les Lumières comme un espace de débat réflexif sur les transformations qui ont touché les sociétés européennes à partir de la fin du XVIIe siècle.
Et ce que vous montriez là, à l'instant, c'était cette pluralité des Lumières. Et en effet, il y a là une chose que vous avez ajoutée au texte publié de votre leçon, hein, Actualité des Lumières. Vous avez ajouté le sous-titre « Une histoire plurielle ». Alors, cette pluralité, c'est celle des Lumières? Est-ce que c'est celle aussi de leur actualité? Est-ce que c'est les deux?
Alors, il faudrait que ce soit celle de leur actualité. Alors oui, ça commence à devenir, voilà, c'est un peu mon gimmick là depuis maintenant quelques temps. Je mets du pluriel, je veux tout pluraliser, je mets du pluriel partout. Pourquoi ? Alors, c'est une réaction avec une évolution. Je suis obligé d'être un peu long, mais d'abord la réaction, c'est une réaction justement contre la tentation d'unifier les Lumières et de les réduire en fait à une doctrine, à des valeurs, à quelques auteurs, etc. Et ça, c'est une tension qui est très présente dans l'historiographie et qui est surtout extrêmement présente dans le débat public. Et donc, il y a une certaine actualité des Lumières qui consiste justement à dire, ben voilà, les Lumières, c'est la science, le progrès, l'optimisme, la tolérance, etc. Et donc, on se fait une conception extrêmement unifiée des Lumières pour les défendre ou les critiquer. Et contre cet usage dans l'espace public, mais aussi en partie dans l'historiographie des Lumières, mon travail, donc déjà depuis le livre précédent qui s'appelait justement L'héritage des Lumières, consistait à pluraliser au sens de montrer, tout simplement de montrer que au sein des Lumières, il y a des auteurs, des courants, des positions extrêmement différentes, y compris chez les mêmes auteurs. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de montrer que certains auteurs, au fond, passent leur temps, y compris chez les auteurs les plus importants des Lumières, passent leur temps à débattre avec eux-mêmes, à mettre en scène leurs désaccords, à mettre en scène leurs hésitations, y compris cette tension entre optimisme et pessimisme, entre scepticisme et, au contraire, militantisme de la raison, etc. Donc, en fait, c'est un espace extrêmement pluriel de débat. Et puis, depuis maintenant 2 ans, notamment en travaillant sur la leçon et puis avec les cours que j'ai commencé à faire, je me suis aperçu que j'étais pas allé assez loin dans cette pluralisation, puisque c'est une pluralisation qui restait finalement assez prisonnière d'un espace de l'histoire intellectuelle européenne. Or, ce qui devient plus intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pluraliser les Lumières au-delà de l'histoire européenne ? Parce qu'on a beau pluraliser, on restait dans cette idée que les Lumières, c'est un héritage européen. Et de fait, dans l'héritage des Lumières, j'essayais de réfléchir à, quand on dit héritage, c'est héritage de qui ? Et donc, je réfléchissais à la façon dont qui est le nous qui se réclame de cet héritage, mais je restais en fait quand même enfermé dans l'idée que c'était un héritage qui était discuté à l'intérieur de l'espace intellectuel et politique occidental. Or, en fait, ce n'est pas le cas, j'en ai de plus en plus conscience. En fait, l'Europe n'a pas le monopole des Lumières et il y a des Lumières, des courants, quelles que soient les définitions qu'on peut prendre des Lumières. On a des courants dans d'autres espaces du monde qui revendiquent la question des droits, la tolérance, l'argumentation rationnelle comme outil d'émancipation, l'importance de la liberté du savoir ou de la philosophie par rapport à la religion. Alors, soit antérieure d'ailleurs à l'Europe du XVIIIe siècle, et puis évidemment postérieure, en partie par la réception des auteurs européens, mais aussi par des effets d'hybridation avec des traditions intellectuelles locales.
Oui, vous parlez par exemple du Japon de l'ère Meiji.
Voilà, alors le Japon de l'ère Meiji, c'est un exemple très intéressant, parce qu'on a à la fois une importation volontariste dans une optique de modernisation et d'occidentalisation, mais en fait, si ça fonctionne, ça fonctionne parce qu'il y a une tradition endogène déjà de critique des rites, de discussion autour de la raison dans le Japon des 17e, 18e siècles. Et puis ça ouvre d'ailleurs un espace pluriel, y compris parmi les auteurs japonais qui se réclamaient, qui ont importé, qui ont traduit des textes européens. Eux-mêmes avaient des positions politiques, intellectuelles qui étaient différentes. Et donc, mais on a la même chose en Chine au XXe siècle, on a la même chose dans plein d'autres espaces. Et donc voilà, ça ouvre alors là une histoire qui est vraiment plurielle de ce point de vue-là et qui modifie, et qui à mon avis est extrêmement importante si on veut aujourd'hui discuter sérieusement de ce que c'est que les Lumières dans un monde global et de sortir justement du face-à-face entre l'héritage européen des Lumières et puis des univers intellectuels et politiques soit auxquels on imposerait la modernisation occidentale, soit qu'il la refuserait à juste titre dans une perspective postcoloniale, mais simplement en montrant qu'en réalité, aujourd'hui, dans l'espace intellectuel contemporain, en réalité, il y a des traditions qui peuvent se réclamer des Lumières, qui sont extrêmement diverses. Et ce travail-là, qui est un travail de cartographie, d'histoire intellectuelle globale, si on veut, même là je dis globale, en fait, c'est pour ça que j'essaye d'éviter pour plein de raisons le terme de global, mais j'ai préféré dire d'histoire multiple, au pluriel, il permet justement de montrer qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester sur cette identification lumière-Europe.
Oui, multiple, en effet, c'est le titre du colloque que vous avez organisé en juin dernier sur donc cette question des lumières multiples et en effet où vous avez invité vos collègues à penser aussi les lumières en dehors d'une temporalité qui normalement commence au XVIIIe siècle et donc à remonter jusqu'à l'époque médiévale et ça suppose ça aussi une définition plurielle des lumières qui distingue, vous le montrez depuis quelque temps, à la fois les lumières comme moment historique, comme une période, comme un chrononyme, et puis les lumières comme un idéal. Et c'est ce concept-là, cet idéal que vous essayez de déconstruire, de détricoter, de reconstruire aussi. Et donc, à la fin du colloque, on en est arrivé où sur ce concept de lumière comme idéal ?
Alors, on est arrivé exactement à ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'on y voyait plus très clair. Non, on voyait très bien. Le colloque pour ça était formidable parce qu'il a permis de voir que il y avait effectivement dans des espaces très différents, que ce soit effectivement le Japon ou la Chine, on a déjà parlé, mais aussi l'Afrique, le monde arabe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, effectivement des traditions, des courants qui se réclamaient ou qui pouvaient, alors soit qui se réclamaient ouvertement des Lumières, bon, évidemment, et du terme même, donc le fait de suivre le terme est très intéressant. Je fais une incise, mais par exemple, c'est intéressant de voir que Keimo, en japonais, qui est le terme qui correspond, est à peu près au même moment que Enlightenment en anglais, c'est-à-dire au tournant des 19e et 20e siècles. Donc, ce n'est pas bien plus tard, c'est-à-dire que le moment où c'est construit comme une catégorie d'histoire de la philosophie et comme une catégorie historiographique n'est pas beaucoup plus tard que les Lumières, avec un L majuscule, à peu près au même moment. Tous viennent, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, comme des traductions de Aufklärung. Donc, on a en fait un espace, de ce point de vue-là, qui est intéressant à saisir. Alors ça, c'est ceux qui se réclament ouvertement d'un rapport aux Lumières, en tout cas à la Aufklärung, comme moment aussi, à la fois comme moment historique de la pensée et comme, effectivement, horizon d'émancipation et de modernisation. Mais on voit aussi que ces courants-là s'ancrent et s'enracinent dans toute une série de traditions. Et là, on a des circulations fascinantes. Il suffit de prendre, par exemple, le cas de la philosophie arabe médiévale, qui est une des sources, une des racines de l'autonomie de la pensée, de la philosophie rationnelle par rapport à la théologie, qui a, d'une part, évidemment, on le sait bien, une influence très grande sur la pensée européenne, à la fois comme relais de la pensée grecque, mais pas seulement, mais qui va aussi, effectivement, par là, revenir dans le monde arabe et nourrir des courants rationalistes spécifiques du monde arabe. Donc, on se met à voir comme ça des circulations qui sont très complexes, qui sont intéressantes. Et évidemment, on se retrouve à la fin quand même du colloque avec une cartographie totalement éclatée, une réflexion sur les termes, sur les langages, sur les formes d'appropriation. Il faut bien voir que d'un point de vue d'outils et de méthodes, ce que j'appellerais l'histoire intellectuelle, global, multiple, transnational, est plutôt en retard. L'histoire globale était beaucoup portée par l'histoire économique, par l'histoire sociale, plus en plus par l'histoire culturelle, mais l'histoire intellectuelle, pour des tas de raisons, y a été assez réticente, donc on n'a pas non plus énormément d'outils. Donc voilà, pour l'instant, c'est un chantier qui est ouvert, c'était vraiment un point de départ, c'était un colloque pas du tout pour que les gens viennent apporter des conclusions sur des sujets sur lesquels ils travaillent depuis longtemps, mais c'était une invitation à venir ouvrir collectivement un chantier. Voilà, et donc il faut maintenant continuer à y travailler, mais pour moi c'est un horizon sur plusieurs années. Donc s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui s'intéressent aux lumières dans différentes traditions, ils sont les bienvenus pour rejoindre ce chantier collectif.
Le message est passé, on attendra les réponses, on vous les transmettra. Ces lumières plurielles, elles sont importantes pour vous, et vous terminez d'ailleurs votre leçon en appelant à des lumières plurielles ironiques et tolérantes. Et là, je voudrais revenir sur le mot ironique que vous employez et qui m'a fait penser à l'article que vous avez écrit dans Génération historienne, l'ironie de l'histoire. Vous y observez une distance de votre génération d'historiens et d'historiennes. Est-ce que pour vous, cette ironie, elle peut être utile pour penser, repenser l'histoire longue des Lumières ?
Oui, alors, de fait, il y a deux choses. Je ne sais pas dans quelle mesure elles sont, si je suis honnête, entièrement articulées. Je pense qu'elles doivent l'être. Mais l'une qui est effectivement... Alors, ce que, effectivement, dans cet article, j'avais appelé l'ironie de l'histoire, c'est, alors je partais, alors c'est une commande, hein, c'était peut-être pour dire à tout le monde, c'est ce volume collectif où on demandait aux historiens de parler en essayant, alors pas au nom de leur génération, mais en essayant de faire l'expérience, d'expliquer en quoi leur travail pouvait être lié à une expérience générationnelle. Bon, moi, j'avais 17 ans en 89 au moment de la chute du mur, donc je pense que c'est là l'expérience fondamentale de l'entrée dans l'âge adulte. Et, or, évidemment, ce que la chute du mur de Berlin et d'ailleurs la suite nous a montré, c'est que vraiment l'histoire n'est pas écrite, qu'elle peut s'accélérer très vite.
Oui, ça vous a permis de repenser ce que vous disait votre professeur d'histoire géo de l'époque.
Oui, genre, ça m'a toujours marqué. Il nous disait, donc on faisait en terminale, 88-89, quand on faisait l'URSS, et il nous disait toujours, oui, on dit que l'URSS s'affaiblit, mais ça prendra 100 ans, je le sais bien, etc. Et donc, effectivement, donc, le démenti... Donc, après, c'est difficile de prendre les historiens très au sérieux. Hein, donc là, c'est le démenti. Non, en tout cas, c'est la certitude. Et je pense que, quand même, il y a eu ce moment où on s'est dit, voilà, finalement, l'histoire, ça bascule très vite. Alors, c'était très banal de dire ça, mais peut-être que c'était moins évident. Et en tout cas, il y a eu cette idée, effectivement, que je pense que toutes les réflexions qui sont venues ensuite sur le jeu des temporalités, sur la fragilité de l'histoire, etc., sont venues de là. Et moi, ce que j'appelle ironie, c'est cette idée, effectivement, que l'histoire est jamais exactement ce qu'on croit, qu'il y a un écart à prendre toujours par rapport aux certitudes, qu'elles soient celles des acteurs, mais qu'elles soient aussi celles des commentateurs, celles des historiens, etc. Je considère aussi de ce point de vue-là qu'on est une... J'appartiens à la génération qui a été biberonnée avec les romans de Milan Kundera. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense à cette phrase dans La Plaisanterie, justement, il dit des fois l'histoire plaisante. Et donc, cette histoire, c'est l'idée que l'histoire, qu'il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Évidemment, c'est dire ça, on pourrait dire, oui, mais enfin, quand même, il y a des choses terribles. Enfin, voilà. Et ça nourrit, disons, une espèce de, en tout cas chez moi, un souci permanent d'éviter les postures par rapport à l'histoire, et notamment la posture tragique et la posture édifiante. Voilà. Donc l'ironie, ce que j'appelle rapport ironique à l'histoire, c'est un rapport voilà, qui est toujours à distance du rapport trop édifiant ou du rapport tragique. Bon, à la fin du texte, quand je disais des lumières ironiques, mais peut-être qu'au fond, vous avez raison, qu'au fond, c'est à peu près la même chose, ce que je voulais souligner, c'était justement que quand on pense aux Lumières, on a souvent une vision, justement, le militantisme de la raison, la science, les combats de Voltaire, etc. Et puis ensuite, la Révolution française, les droits de l'homme, ça va être très bien. Mais moi, je suis très sensible aussi, dans les Lumières, justement, à cette dimension ironique, c'est-à-dire une façon de prendre toujours des distances par rapport à ses propres convictions. Voilà, c'est ça qui est important, parce que l'ironie, ce n'est pas le scepticisme cynique et désabusé. C'est une manière de moduler la conviction en étant à la fois capable de sérieux quand c'est nécessaire et en même temps en se méfiant d'une certaine façon de transformer justement la critique du dogmatisme en nouveau dogmatisme. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que... Voilà, Diderot est un des auteurs qui m'est cher. C'est-à-dire que c'est cette manière toujours d'essayer quand même de penser contre lui-même. Par exemple, Le Neveu de Rameau est un texte absolument extraordinaire de ce point de vue-là, la façon dont il met en scène la mise en cause de sa propre position de philosophe. Mais Voltaire, qui est moins... Il a moins la cote, Voltaire, parce que... Évidemment, mais en même temps, il dit dès qu'il est sur le bateau, ça se passe mal. Il dit Candide tremblait comme un philosophe. J'aime bien cette... Donc, cette dimension-là, voilà, cette prise de distance, cette tentative, en tout cas, de garder toujours de la distance par rapport de ne pas être trop entièrement de son propre avis.
Alors, la distance, vous l'avez prise très rapidement par rapport à votre leçon. Vous l'évoquiez au début de notre entretien, puisque tout de suite après, la leçon a commencé le cours. Et votre premier cours s'est intitulé, celui de l'année dernière, de janvier 2023, qui vous a mené jusqu'en avril de la même année, s'est intitulé « Un monde nouveau, Tahiti et l'Europe des Lumières », avec un premier cours centré sur le personnage d'Aoutou Toru. Ça paraît très loin des Lumières, cet intérêt pour Tahiti, et pourtant... vous faites le lien, non seulement par le supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot, mais de façon plus large, en fait, vous retissez des liens avec une nouvelle façon de penser l'histoire des Lumières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi c'est utile de passer par Tahiti pour repenser les Lumières européennes ?
Ben, disons qu'une des choses qui m'intéresse beaucoup dans les Lumières depuis plusieurs années, c'est la question de la façon dont les Lumières ont pensé l'altérité, puisqu'au fond, c'est la question centrale de ce qu'on appelle aujourd'hui l'universalisme des Lumières. Est-ce que l'universalisme, c'est une ouverture cosmopolite au monde et donc une ouverture à la diversité du monde et à sa différence, ou est-ce que l'universalisme, c'est une sorte d'homogénéisation un peu hégémonique de la raison occidentale? En gros, ça, c'est la tension. Et avec Tahiti, on a un cas, en fait, à mon avis, un laboratoire fondamental, puisque la découverte du Pacifique, et donc la découverte de cette culture et de cette société totalement différente, a été en fait un événement fondamental pour la pensée des Lumières. C'est pour ça, pour moi, c'est pas éloigné des Lumières. Alors, évidemment, c'est un long voyage, hein, mais c'est pas du tout éloigné, parce que c'est l'événement fondamental. Et d'ailleurs, à mon avis, que les historiens du XVIIIe siècle, au fond, et notamment en France, alors surtout en Angleterre, c'est un peu différent, parce qu'il y a James Cook, donc c'est... Mais en France, on continue, le paradigme atlantique est tellement fort, évidemment, surtout aujourd'hui, à cause de la colonisation, à cause de l'esclavage, qu'au fond, ce qui se passe dans le Pacifique, mais pour la pensée des Lumières, ils ont tous été extrêmement frappés par ce qui se passait, et par notamment l'arrivée et la rencontre avec la société polynésienne, et énormément de choses, que ce soit la question de la pensée de la nature, que ce soit la question de la remise en cause et de la critique du modèle de la civilisation européenne, que ce soit les premières typologies raciales, que ce soit la réflexion sur la sexualité, tous ces éléments, et sur la liberté, tous ces éléments qui sont au cœur de la réflexion à la fois politique, éthique et sociale des Lumières, elle est mise à l'épreuve, en fait. Elle est mise à l'épreuve par Tahiti. Mais pour le faire, du coup, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais un objet. Et cet objet, ce sont les Tahitiens qui sont venus en Europe. Puisque, alors, il y a Aotourou, que vous venez de mentionner, que Bougainville ramène à Paris en 1769. Et puis, il y a Mike, Cook amène quelques années plus tard, qui va passer 2 ans à Londres. Et puis, on a aussi Tupaya qui voyage avec Cook. Enfin, bon, je ne vous fais pas tout le cours. Mais voilà, on a une série de figures comme ça, de Tahitiens, qui s'embarquent, qui viennent, qui séjournent, qui repartent. Alors, à Aotourou, malheureusement, il n'arrivera pas jusqu'à Tahiti. Mike va se réinstaller en Polynésie. Bon. Et donc, essayer de regarder cette histoire-là, mais à partir, en suivant non pas le voyage de Bougainville ou celui de Cook, mais le voyage d'Aotourou ou de Maille, avec cette difficulté, cette contrainte qu'on n'a aucune source et témoignage du côté tahitien, donc il faut écrire cette histoire du point de vue tahitien, mais à partir de sources européenne.
Oui, ça pose toute la question de l'histoire à parts égales.
Alors, elle n'est pas du tout à parts égales.
Oui.
Elle est malheureusement, elle est à part totalement inégale si on considère l'histoire à part. Vous savez que l'histoire à parts égales, on peut la définir de deux manières. On peut la définir de manière narrative ou narrativo-épistémologique, c'est-à-dire à qui on s'intéresse, quels acteurs on suit, et on peut la définir en termes de documentaire. Romain Bertrand, dans le livre éponyme, ce qui l'intéressait surtout, c'était la question de la symétrie documentaire. Alors évidemment, c'est possible à Java, c'est pas possible à Tahiti. Donc, j'ai pas de symétrie documentaire, donc il faut avoir d'autres stratégies documentaires, d'autres manières de lire les sources, mais on a quand même des possibilités. Par exemple, les journaux de voyage, les journaux de bord, qui permettent, par exemple, de trancher. Alors là, vraiment, une question, c'est qu'effectivement, c'est bien à Aotourou, et pareil pour Mike, qui ont voulu s'embarquer. Ils ne sont pas ramenés comme des captifs, ils ne sont pas ramenés pour être montrés en trophée ou comme des curiosités, c'est eux qui veulent s'embarquer.
Oui, parce que c'est vraiment un enjeu, et il y a d'ailleurs des controverses sur les façons dont ils sont venus, et s'ils n'ont pas été forcés, on se demande s'ils n'ont pas été forcés à venir de la part de certains auteurs en Europe. Hein.
Évidemment, d'abord, il y a toute une littérature postcoloniale qui pose ça, qui les voit comme, si vous voulez, les ancêtres, des os humains, etc. Mais déjà, à l'époque, on dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus, et parce qu'il y a déjà cette espèce de critique, enfin la critique de la dimension coloniale des expéditions, elle est déjà présente. Et donc, mais de quel droit vous avez ramené D'ailleurs, au début, c'est pour ça qu'en fait, aussi bien Bougainville que Cook, ils ne veulent pas tellement les ramener, parce qu'ils savent qu'ils vont être confrontés à des critiques, à des remises en cause, qu'ensuite il va falloir les ramener, c'est quand même très compliqué. Et là, je peux documenter le fait qu'effectivement, ils se sont imposés sur le bail, ils ont voulu partir. Alors pourquoi ? Et là, ça devient intéressant. Et pour le comprendre, eh ben, il faut utiliser les travaux des anthropologues ou des archéologues pour montrer qu'en fait, ces sociétés n'étaient pas du tout des sociétés totalement hors du temps, hors de l'histoire, etc. Mais au contraire, étaient des sociétés dans l'histoire, avec des guerres, des rivalités, des conflits, des croyances, etc., qui permettent de produire des hypothèses, construire des hypothèses sur les raisons pour lesquelles ils ont voulu voyager avec les Européens. Et puis, ce qui est amusant, c'est que du coup, on se confronte aussi à toute une série de débats anthropologiques sur les conditions de la rencontre, mais qui permettent, à mon avis, de revenir effectivement à la question des Lumières.
Oui, et puis comme vous dites, d'imaginer d'autres façons de faire de l'histoire, d'imaginer des histoires possibles aussi, et donc de réfléchir à nos façons d'écrire l'histoire dans ces cas-là. Et puis vous le mentionnez, il y a cette question de l'universalisme, évidemment, hein, qui habite cette tension des Lumières. Et après avoir fait le détour par Tahiti, c'est bien dans l'universalisme que vous vous plongez, puisque c'est l'objet de votre cours de cette année qui a commencé fin 2023 et qui continue en ce moment même, qui consiste à repenser la notion d'universel, de distinguer des langages de l'universel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour terminer et puis voilà pour teaser la suite aux auditeurs et auditrices d'entretemps.
Alors bon, pour aller vite, je pense qu'il y a là encore, il s'agit de pluraliser. Donc il s'agit de montrer qu'en fait il n'y a pas une chose qu'on appelle l'universalisme des Lumières. Il faudrait être soit pour soit contre, mais qu'en fait au XVIIIe siècle il y a j'appelle des procédures d'universalisation, des rapports à l'universel, des effets d'universel. Et en particulier, donc voilà, j'essaie de distinguer, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, hein, un universel cosmopolite, fondé plutôt sur la notion de tolérance, un universel historique, fondé plutôt sur tout le langage de la civilisation, et puis un universel critique, qui est au contraire un universel un discours qui, au nom de l'universel, critique ou renverse les effets de domination européenne, occidentale. Et là, par exemple, on va le trouver de manière très, très forte dans tout le discours abolitionniste, par exemple. Et, par exemple, chez Diderot, lorsqu'il met en scène, dans le supplément au voyage de Bougainville, parce que quand même, je n'abandonne pas tout à fait Tahiti, dans lequel il met en scène, la critique du colonialisme européen d'une manière extrêmement virulente. Il y a peu de textes des coloniaux aujourd'hui contemporains qui sont aussi violents et virulents à l'égard du colonialisme européen que dans le discours du vieillard au début du supplément au voyage de Bougainville. Donc, tout ça pour dire qu'au fond, on a, si on regarde l'universalisme des Lumières sous cet angle, on voit qu'il est en tension entre des principes plutôt eurocentriques, notamment la notion de civilisation, un principe plutôt cosmopolite, mais avec ses contradictions, et puis un principe qui est un principe ouvertement critique et qui va être repris dans d'autres contextes, par exemple, à la fin du siècle, par les Lumières noires d'Haïti ou des colonies, comme un discours d'émancipation des esclaves. Donc, on a cette pluralité, et ensuite, ce qui m'intéresse dans le cours de cette année, c'est de voir aussi comment cette pluralité joue et rejoue pendant la Révolution.
Ben écoutez, je crois que voilà, maintenant, les auditeurs et les auditrices savent quoi faire, à savoir aller écouter sur Internet et voir sur Internet les cours précédents s'ils ne l'ont pas et elles ne l'ont pas encore fait. Antoine Hilti, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter à la fois votre programme de recherche, mais aussi la façon dont la leçon inaugurale s'est articulée avec vos recherches précédentes. Peut-être une dernière question avant de terminer, c'est si aujourd'hui vous revoyez cette leçon inaugurale, est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous avez dit, ou est-ce que ça a déjà beaucoup évolué?
Je ne vais quand même pas me désavouer déjà. Non, je pense que justement sur la question, mais c'est normal, parce que comme la question de l'universalisme, c'est la question sur laquelle je travaille actuellement, il y a des choses que j'ai affinées. La question, par exemple, je viens de citer de l'articulation de tolérance cosmopolitisme, qui est un des thèmes sur lesquels je travaille actuellement. Je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire surgir davantage. C'est peu présent. C'est un peu dommage. Et puis peut-être j'aurais pu être plus explicite. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'actualité. cette articulation entre l'universalisme dans la pensée du XVIIIe siècle et la question des enjeux politiques aujourd'hui. Alors, dans la leçon, j'avais quand même évoqué les questions des enjeux autour du postcolonialisme et de la remise en cause du lien lumière-colonialisme. Mais par exemple, sur la question des revendications minoritaires aujourd'hui, la façon dont on leur oppose un discours des valeurs républicaines fondées sur un discours qui se réclame des Lumières, peut-être que je serais plus explicitement critique par rapport à ce geste-là. C'est présent en filigrane, mais voilà, plus je travaille, plus je m'aperçois à quel point c'est vraiment il y a une opération là qu'il faut vraiment déconstruire.
Écoutez, merci beaucoup de nous avoir invités à suivre cette histoire en train de s'écrire.
C'est moi qui vous remercie.
Cet épisode a été préparé par Aurélien Péter et Louise Gentil. L'entretien a été mené par Aurélien Péter. La captation, le montage et le mixage ont été assurés par Anaïs Reinhardt.
Vous pouvez retrouver toutes les publications de la revue et les autres épisodes du podcast sur notre site internet entre-temps.net.
N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle publication. Bonne écoute, bonne lecture et à bientôt.